Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h, 17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture. Patrimoine, spectacle, visite et initiative, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 7 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Aujourd'hui avec nous, Marie, on reçoit Anne Proutot, responsable du département des lettres modernes de l'Université catholique de l'Ouest, pour le programme culturel de ce mois de mars. Et tout de suite, Dominique, on découvre la dernière publication des éditions 303, le carnet d'Anjou, dédié à la manufacture des allumettes de Trélazé avec Monsieur Thierry Péloquet. Le cinquième ouvrage de la collection Carnet d'Anjou des éditions 303 est sorti fin janvier. Il est consacré à la manufacture des allumettes de Trélazé. Ce témoin du patrimoine industriel a fermé ses portes en 1980, après 60 ans d'activité, et connaît aujourd'hui une nouvelle vie entre lieu d'habitation, lieu de commerce et lieu de création.
Et oui, depuis le milieu du 19e siècle, la production d'allumettes se développe à Trélazé, en parallèle de l'extraction ardoisière. À la première usine des frères Le Batteux succède en 1920 une importante manufacture d'État, construite route de Saumur, juste derrière l'actuel Lidl. Il va associer une architecture inventive à un process industriel performant. La manufacture ferme définitivement ses portes en 1981. Commence alors une période d'usage précaire et d'incertitude jusqu'au début des années 2010, période d'une vaste mutation à l'appui d'une forte mobilisation citoyenne pour la mise en valeur de ce patrimoine.
C'est donc un miracle si cet ensemble a été sauvegardé.
Absolument, mais le site s'est vu attribuer dès le début le label, le fameux le prestigieux label patrimoine du XXe siècle et celui qui est délivré par le ministère de la Culture. C'est une reconnaissance qui est fondée sur les qualités architecturales du projet, sur sa composition urbaine et très rationnelle, sur ses procédés de construction en béton armé, y compris pour les charpentes, mais enfin aussi pour son système de transport aérien destiné à l'acheminement des matières premières et à la livraison des produits finis. Ce système passe d'une halle à l'autre et franchit même l'avenue principale sous un passage couvert. Plusieurs auteurs ont participé à la rédaction de ce nouveau numéro des carnets d'Anjou, des historiens, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, l'Association des amis du patrimoine trélazéen, des critiques d'art, des photographes. Et parmi toutes ces personnes, nous avons le plaisir de recevoir à notre micro Thierry Péloquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur en chef du patrimoine au Conseil départemental de Maine-et-Loire, mais vous êtes surtout le directeur éditorial de cette collection. On va parler d'abord un peu histoire. L'installation de la fabrique d'allumettes à Trélazé va bien sûr renforcer le caractère industriel de la ville, en complément des ardoisières. Y a-t-il derrière, par hasard, une volonté politique de rassembler la population industrieuse sur cette partie est de l'agglomération d'Angers ?
Alors, je ne sais pas s'il y a une volonté politique, mais en tous les cas, effectivement, il y a deux grandes industries à Trélazé au XIXe siècle, c'est l'industrie de l'ardoise, la plus connue, avec surtout des ouvriers qui sont plutôt des hommes, qui travaillent bien sûr en fond de mine, à l'extraction et aussi en surface, sur la fonte de l'ardoise et puis après son expédition. Et puis il y a la manufacture d'allumettes, puisqu'en fait, dès le milieu du XIXe siècle, une première usine s'installe dans les années 1860, sur l'ancien site de l'Union, un ancien site d'ailleurs ardoisier, et la manufacture d'allumettes, l'usine qui devient ensuite une manufacture d'État, elle est d'abord, je dirais, un lieu où ce sont plutôt des femmes qui y travaillent.
Oui, c'est la complémentarité hommes-femmes d'une même famille en général, les hommes travaillant à la mine et les femmes aux allumettes. C'est une très grosse population, je crois, en pourcentage.
Alors, dans la première, en fait, usine des années 1850, on arrive à peu près à 200 ouvriers, qui sont plutôt des ouvrières. Et puis, on va monter un chiffre beaucoup plus important après, avec la seconde manufacture, la grande manufacture d'État, dont on reparlera tout à l'heure, qui, elle, a été construite un petit peu plus tardivement, dans les années 20 et puis dans les années 50.
Il y a donc à Trélazé, on est d'accord, un engagement ouvrier particulier au sein de cette agglomération d'Angers.
Oui, en tous les cas, il y a effectivement la volonté à l'époque, à la fois sans doute des élus et puis de manière plus globale des entrepreneurs, de fonder sur ce lieu-là, enfin sur ces lieux-là, des espaces industrieux. Sur la base, encore une fois, de l'exploitation et de l'ardoise et de la manufacture et de la fabrication d'allumettes.
Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de la fin du 19e, début 20e, des mouvements particuliers sociaux sur ce site de Trélazé ou pas vraiment ?
Alors, il y a eu j'irais tout au long de l'histoire des deux lieux, il y a eu des manifestations ouvrières diverses et variées pour revendiquer leurs droits. Après, il y a eu des représentations aussi à l'échelle nationale, avec notamment des personnalités importantes comme Ludovic Ménard, voilà, qui était un des représentants à l'échelle nationale des ouvriers de Trélazé pour la partie allumettes.
Donc c'est un peu le petit Boulogne-Billancourt de la région parisienne.
Si on va aller par là, oui.
D'accord. On va parler un peu plus du projet de reconstruction de cette manufacture d'État. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de ces bâtiments ?
Vous l'avez dit, en fait, ce qui reste aujourd'hui, de la première manufacture, il reste quelques éléments qu'on peut voir de manière un petit peu limitée, mais néanmoins à travers la médiathèque aujourd'hui de Trélazé, puisqu'en fait la médiathèque a été installée dans une des parties de la première manufacture des frères Le Batteux. Mais l'essentiel de l'ouvrage parle de la seconde manufacture, oui. Celle qui a été créée dans les années 20. Et là, c'est un établissement important parce qu'en fait, il occupe à peu près 6 hectares. C'est vraiment une composition urbaine, on va dire, au centre même, enfin une composition urbaine et industrielle, mais au centre de la ville de Trélazé. Et donc, aujourd'hui, les vestiges de cela ont été reconvertis, mais simplement une partie, puisqu'il y a quand même eu pas mal de destruction.
C'est donc un ouvrage totalement neuf sur un terrain vierge. On va construire de manière très rationnelle un ensemble de bâtiments.
Absolument.
Qui sont donc reliés par ce fameux transport aérien.
Ouais.
C'est un peu le lien entre tout ce monde, depuis la livraison des billes de bois jusqu'à la finition des boîtes d'allumettes.
Exactement, c'est une composition urbaine et architecturale, avec effectivement un process extrêmement performant. De part et d'autre d'une grande avenue nord-sud, qui s'appelle d'ailleurs l'avenue des allumettes, déjà dès l'époque, sont réparties les différentes halles qui sont autant d'ateliers de fabrication, avec d'un côté, plutôt à l'est, les espaces de production, et plutôt à l'ouest, en fait, les différents bâtiments qui sont plutôt des lieux où sont stockées les matières premières et les allumettes qui sont prêtes à l'expédition.
Alors, ce qui frappe quand on visite les bâtiments, c'est l'usage omniprésent du béton armé.
Ouais.
Alors, c'était plus fréquent à Paris, ça l'était beaucoup moins en Anjou, 1920. On va construire à la fois les bâtiments eux-mêmes, mais même leur charpente, ce qui est plutôt étonnant. Alors, je crois qu'il y a derrière aussi des notions de sécurité. Évidemment, fabrication d'allumettes veut dire risque d'incendie.
Absolument. Donc le béton permet justement d'une certaine manière de faire face à d'éventuelles problématiques de cet ordre-là. Le béton, il est aussi utilisé justement pour porter ce transporteur aérien, puisque à travers ce système-là, ce sont des tonnes et des tonnes de produits qui vont pouvoir circuler, on va dire, dans l'espace. Et donc, il faut une vraie solidité des charpentes pour pouvoir tenir ce transporteur aérien. Par contre, sur les charpentes en elles-mêmes, ce sont des charpentes qui sont à la fois intéressantes d'un point de vue de leur structure, mais c'est pas forcément d'une grande modernité à l'époque. C'est-à-dire que on copie plutôt au fond des styles de charpentes, si on peut appeler ça comme ça, qui sont déjà un peu anciens, avec des charpentes un peu à la mansarde, alors qu'à la même époque, on a des techniques qui sont beaucoup plus développées, notamment je pense aux voiles de béton que développe dans les mêmes années à peu près Eugène Fraissinet, qui est un architecte ingénieur. Et donc on est sur à la fois quelque chose de solide et d'intéressant d'un point de vue de la composition, mais presque un peu archaïque du point de vue, on va dire, du style et de la modernité technique de ce que permet le béton à l'époque.
Oui, mais ça, c'est parce qu'on s'adressait peut-être à des entrepreneurs angevins qui n'avaient pas le savoir-faire que pouvaient posséder certaines grandes entreprises parisiennes.
Peut-être, il y avait peut-être aussi une volonté de garder une sorte de classicisme un petit peu architectural.
Le toit d'ardoise,
absolument, ouais. avec cette charpente à la mansarde. Et puis, encore une fois, le fait que ces charpentes tout à fait classiques permettaient le soutien de ce circuit aérien qui était vraiment essentiel.
Alors, on a quelques ouvrages phares au milieu du site. On a à la fois des grandes cheminées et puis surtout on a un château d'eau. Et ça, le château d'eau, c'est une sculpture, mais c'est tout aussi un élément essentiel pour lutter contre les éventuels départs d'incendie.
Voilà, c'est un outil, un monument à part entière au sein de l'usine. Alors effectivement, il en reste aujourd'hui, on va dire, une sorte de squelette de ce que l'on peut voir sur place. Mais c'était à l'époque, effectivement, un bâtiment donc construit lui aussi en béton armé et qui permettait, après de distribuer l'eau dans les différents espaces pour éventuellement effectivement combattre d'éventuels incendies.
Alors, on va parler maintenant reconversion, parce que ça, c'est une expérience inédite. On a un ensemble de bâtiments industriels. Vous l'avez dit, 50% malheureusement de ces bâtiments ont aujourd'hui disparu, mais ils ont donné lieu à des projets de réhabilitation tout à fait impressionnants, notamment des logements. Alors, des logements dans une usine, ça paraît irréaliste. Et pourtant, je crois que les gens qui y vivent sont tout à fait contents, heureux, de cette atmosphère particulière de ce site.
Alors ça, il faudrait leur demander. C'est une question qu'on s'est posée, y compris lorsqu'on a lancé l'ouvrage. On a fait un petit moment de partage sur site auprès des journalistes aussi pour parler de ça. Je pense qu'il y aurait un travail là de témoignage auprès des habitants pour savoir comment justement ils s'approprient ces lieux-là. Parce que, comme vous le dites justement, reconvertir un espace industriel pour en faire un lieu culturel, par exemple, c'est assez simple. Pour en faire effectivement du logement, à la fois du logement social et aussi du logement d'accessibilité à la propriété, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que le bâtiment, enfin les espaces, c'était un programme quand même industriel au départ, et de partir d'un programme industriel pour en faire un programme d'habitat, je pense que c'était un vrai challenge. Et il y a plusieurs architectes qui se sont qui ont prêté leur main à ce travail-là, enfin qui ont répondu à des consultations, et c'est notamment le cas de l'agence Latitude de Rennes qui a livré la première tranche, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un prix départemental de l'architecture, c'est-à-dire qui a matérialisé en fait la réussite de cette reconversion.
Je pense que les gens quand même sont assez ravis d'habiter sur un site qui est porteur d'une histoire. Et puis d'habiter surtout des bâtiments qui n'ont pas la physionomie traditionnelle de petits logements, de petites maisons individuelles juxtaposées.
Oui, il y a une vraie originalité. C'est une vraie singularité quand même à l'échelle de l'agglomération Angers, puisqu'en fait, l'histoire d'Angers était aussi une histoire industrielle. On l'a un peu oublié parce qu'il y a eu beaucoup de destructions, notamment la principale usine d'Angers, la filature Bissonneau. On en a très très peu de vestiges aujourd'hui, voire même aucun. Et donc la manufacture d'allumettes, c'était quand même un point important en termes de sauvegarde, parce que ça permet de témoigner de ce qu'a été aussi l'industrie de l'agglomération angevine. Et effectivement, pour les habitants d'aujourd'hui, c'est une trace mémorielle importante dans laquelle effectivement ils habitent aujourd'hui.
Alors il y a des halles qui ont été redistribuées en logement. Il y a une grande halle qui sert de parking couvert pour la grande surface commerciale Lidl dont je parlais tout à l'heure.
Tout à fait.
Ça, c'est assez surprenant parce qu'on voit à nu exactement à quoi ressemblaient les halles de cette manufacture, sans aucune occupation autre que celle des voitures qui sont placées au sol.
Alors, pour le coup, c'est une réhabilitation assez simple, mais qui tout de suite donne, je dirais, une visibilité très forte à ce qu'est l'intérêt architectural de ce site, et notamment de ces fameuses charpentes de béton, parce qu'il suffit de se garer, effectivement, garer sa voiture, et tout de suite on découvre les lignes graphiques assez étonnantes, d'ailleurs, de cette charpente.
Et on n'oublie pas aussi, d'ailleurs, dans le projet, à la fois la réhabilitation de ces grands ouvrages témoins, que sont les cheminées, et même ça donnait lieu à un projet de sculpture de Raphaël Zarka. Dites-nous quelques mots de ce grand projet aussi qui va participer à réanimer ce site.
Alors effectivement, Raphaël Zarka est un artiste plasticien avec une notoriété nationale, voire même internationale, qui a déjà travaillé dans la région, mais qui a répondu là à une consultation d'une structure un peu étonnante qui s'appelle les Nouveaux Commanditaires, en fait, qui est une structure qui rassemble en fait des associations qui veulent porter un projet artistique en lien notamment avec l'État et en l'occurrence là avec la Fondation de France. Alors pourquoi s'est-il intéressé à une cheminée? Parce que en fait, ce qui fait quand même aussi le signal dans le paysage d'une usine, c'est souvent en fait ces cheminées. Et effectivement, il y avait plusieurs cheminées sur le site, notamment deux hautes cheminées en béton qui ont malheureusement été détruites, et puis une grande cheminée en briques qui faisait à peu près une vingtaine de mètres de hauteur, dont il reste simplement un vestige. Il a fallu à un moment donné malheureusement l'écourter, donc un peu la tronçonner aux deux tiers. Et donc à partir de ce vestige de cheminée en brique, il a décidé en fait d'en faire une doublure, puisque c'est le nom de son œuvre, en reconstituant en fait une autre cheminée, qui est une sorte en fait de sculpture architecturale, tout en brique là aussi, qui bénéficie d'ailleurs du concours des artisans de terre cuite d'Herrerie. Et donc ce lieu sera aussi un lieu à la fois de mémoire par rapport à l'histoire industrielle et un lieu aussi de rassemblement, parce que en fait les deux cheminées seront reliées par une petite casquette en béton, et il y aura d'ailleurs un terrassement en béton qui permettra justement d'accueillir un certain nombre de cérémonies ou de spectacles.
Merci infiniment pour toutes ces explications.
Ce cinquième numéro des Carnets d'Anjou est en vente au prix de 10 euros et vient compléter la collection qui a déjà exploré le château du Plessis-Massé, le paysagiste André Leroy, la collégiale Saint-Martin et le patrimoine de la vigne et du vin. On met un peu de swing dans nos oreilles avec les Tarmac Rodeo qui seront en concert le vendredi 10 mars au Chabada.
Chassons gris, les sourires dansent jusqu'à l'aurore. La nuit réveille le fou. Au son du Big Ben tournent les grands ducs, puis roule le dance floor. Come out and play.
And let your lonely devil.
I'll make you sway.
Hey baby, let the good times roll.
Don't freak out.
Toujours dans Franche Culture sur Radio Campus. Marie, vous nous donnez des idées de sorties culturelles?
Oui, pourquoi pas, on va braver la pluie au mois de mars. Avec nous en studio, Anne Proutot. Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, entre autres, responsable du département des lettres modernes à l'Université catholique de l'Ouest, présidente de la Société des études camusiennes et déléguée générale à la vie culturelle de l'UCO. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Déléguée générale, ça veut dire que vous n'êtes pas la seule à animer la vie culturelle de l'université. Vous avez... toute une équipe?
Oui, enfin toute une équipe. En tout cas, j'ai deux assistantes très précieuses, Aurélie Chilot.
Voilà, c'est elle qu'il faut contacter si on...
Et Mallory Jarry. Voilà. Qui sont au service culturel, qui est dans le bâtiment Gento, si vous passez par là. Et devant ce service culturel, il y a de nombreuses brochures aussi qui permettent de se tenir informé de tout ce qui se passe
voilà,
au niveau culturel.
Voilà, il y a une équipe et c'est elle qu'il faut contacter en direct quand on
Absolument.
Veut quelque chose. Voilà. On va s'intéresser donc au programme de ce mois de mars, qui est particulièrement riche. C'est peut-être le mois le plus riche de l'année pour vous, là. 12 dates.
Voilà. Absolument.
12 dates, on va peut-être pas parler de tout, on verra. On va commencer surtout avec la date de demain. On est en direct aujourd'hui le 8 et demain 9 mars à 18h30, il y a l'autrice Marie-Hélène Lafont qui a écrit un ouvrage il y a quelques années, peu d'années, 2018 je crois, sur Flaubert. Et elle vient donc demain dès 18h30.
Oui, alors ça c'est une soirée que nous abritons, nous ne sommes pas à l'origine. C'est organisé par les Bouillons de Lecture,
qui est
animée par Catherine Mallard entre autres. qui est une passionnée de littérature et qui désormais organise ses soirées dans différents lieux angevins.
Voilà. Toute l'année, il y a plusieurs événements.
Bon. C'est ça, donc nous l'accueillons demain soir. Et Marie-Hélène Lafont donc, va venir dans un premier temps parler de Flaubert, qu'elle connaît très bien, qu'elle aime énormément. Et elle-même est une écrivaine reconnue. Et elle, dans la seconde partie de la soirée, à 19h30, si vous pouvez faire l'ensemble, elle parlera de son ouvrage « Les sources ». Qui est autour de violences physiques, un texte assez dur, mais magnifiquement écrit par cette amoureuse de Flaubert. Et on verra justement le lien entre...
Oui, il y a un lien quand même, les deux.
En tout cas, le lien, c'est que pour bien écrire, il faut lire, il faut savoir lire. Et je pense que Flaubert est un grand inspirateur pour elle.
C'est un ouvrage scientifique, son ouvrage sur Flaubert, ou c'est tout le monde peut venir et...
Oh, mais tout le monde peut venir, parce qu'elle est très amusante, cette femme. Enfin, je l'ai vue parfois à la grande librairie. Ouais, ouais. Elle est enseignante, elle est toujours enseignante au collège, en dépit, je dirais, de sa notoriété, de tout ce qu'elle a publié. Donc c'est vraiment une femme qui est très communicante, et donc ça va être pour tous. Voilà. En revanche, il fallait peut-être s'inscrire pour demain. Mmh. Vous le direz peut-être, Marie, tout à l'heure.
Surprise, on s'organise, on s'inscrit. Est-ce qu'il y a des dédicaces à la fin de ce genre de...
Oui, ouais, voilà. De ce genre de soirée.
Alors, Marie-Hélène Lafont, demain. Autre grand nom de la littérature, il y en a plusieurs, mais là, il y a Yasmina Kadra.
Oui, c'est vrai.
Quand même, là, ouais.
Le mois de mars...
Marie-Hélène Lafont, c'est déjà formidable, parce que c'est comme une autrice reconnue.
Absolument. Alors, Yasmina Kadra, dans le fond, ce n'était pas prévu à ce moment-là. C'est pour ça que le mois de mars est si riche.
Il y a trois écrivains qui se télescopent.
Voilà, mais comme parallèlement, finalement, j'ai un cours en troisième année de licence autour de littérature francophone, on travaille sur l'ère géographique du Maghreb, la littérature algérienne d'expression française. C'est un cours récurrent, mais cette année, je vais tenter ma chance et voir si Yasmina Kadra pourrait venir. Donc, j'avoue que je n'ai pas complètement choisi la date. C'est parmi les dates que je lui ai proposées, celle du 20 mars. Dans un premier temps, il va venir pour mes étudiants de licence, dans l'après-midi, et à 18h. Donc, nous serons deux à l'interviewer, une de mes étudiantes, Alban, et moi-même. Donc, Yasmina Kadra, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un homme. Il porte d'ailleurs...
L'anecdote.
Je vais vous raconter mon anecdote. Parce que vraiment,
Minouche, allons-y.
J'étais à Tunis chez mes enfants et Yasmina Kadra signait ses livres à la FNAC de Tunis. Donc j'y suis allée et je cherchais cette jeune femme. Et quand je l'ai vue sur l'estrade, c'était une énorme surprise, un choc de réaliser que c'était un homme. Ouais. Voilà.
Oui, ce sont les deux prénoms de sa femme. Ouais. Voilà, Yasmina Kadra.
Il y en a qui ne le savent pas encore, donc on précise.
Oui, mais bien sûr. Et puis, évidemment, c'est un des plus grands auteurs de la littérature algérienne. Enfin, parmi les plus publiés dans le monde entier, les plus traduits.
Il écrit en français, alors ?
Ah oui, bien sûr.
Il écrit directement en français, je ne savais pas. Je pensais qu'il était traduit.
Oui, c'est toute cette problématique d'auteurs qui ont écrit... au départ dans la langue du colonisateur ou de l'ancien colonisateur. Ouais. Enfin, en tout cas, ça, c'est la problématique de mon cours. Mais c'est un homme qui a une œuvre très, très abondante et qui, notamment, peut-être vous connaissez, tout ça, c'est en poche, Les Hirondelles de Kaboul, L'Attentat, qui est un texte très fort où vraiment un médecin découvre que la personne, sa femme... C'est elle qui va commettre un attentat suicide. Donc ça permet, c'est que la littérature permet toujours de tenter de comprendre, peut-être de moins juger a priori. Donc on entre dans le point de vue des personnages et ça, Yasmina Kadra y parvient très bien. Son dernier roman, 525 pages, que je suis en train de lire pour la soirée.
Mais là, il faut là.
C'est incroyable. Ah oui, ça se lit comme un roman, comme si on entrait dans une mer chaude dans la Méditerranée. Ça s'appelle Les Vertueux et c'est l'histoire d'un personnage qui, je vous dis, je ne vais pas du tout déflorer le texte, mais d'un pauvre jeune homme, d'une famille aussi très pauvre. Et il va devoir, il va partir faire la guerre 14-18 à la place du fils du caïd qui est déclaré invalide. Donc c'est tout le périple de cet homme et puis de ce que c'est que de venir d'Algérie et de faire la guerre 14-18. En général, on est quand même souvent en première ligne. Mmh. Et puis ensuite, le destin, il lui arrive des aventures rocambolesques, mais voilà, un merveilleux conte oriental. Et Les Vertueux, parce qu'il est beaucoup question de sagesse. Donc, c'est intéressant aussi de recevoir un écrivain confirmé dont l'œuvre évolue à la mesure où lui-même évolue. Ouais.
Donc on a de la chance de le recevoir parce que c'est pas.
Alors oui, l'attaché de presse m'a dit qu'il avait tout refusé. Enfin par chance, par Camus parce qu'il aime. Enfin, je l'avais invité il y a quelques années à Pompidou et. Enfin bref, il peut venir, c'est une chance.
Comme je l'ai dit, vous êtes présidente de la Société des études camusiennes, qui est une société internationale.
Ouais.
Donc là, vous avez l'occasion de rencontrer aussi
beaucoup
de monde.
Oui, des écrivains. Voilà. Oui, voilà. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Là, sur
c'est un autre sujet que la vie culturelle.
Voilà, je reviendrai pour parler de Camus.
On a le temps. Allez-y, si, une autre fois, sans difficulté. Alors, il y a aussi, dans ce Culture UCO de ce mois de mars, il y a de la poésie. Et la poésie, c'est vrai que ce n'est pas un genre littéraire qui a un grand succès. Qui existe toujours, pourtant.
Bien sûr.
Et il est organisé, Printemps de la poésie, tous les ans,
c'est
par le ministère de la Culture.
C'est une très, très belle manifestation.
Il y a des activités qui se font autour, mais c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus populaire.
Oui.
Et là, vous avez une date sur la poésie, c'est le 16 mars à 18h, une soirée poétique intitulée Frontières, Frontières avec un S.
Oui. Alors c'est vrai que finalement, je réalise qu'au mois de mars, tous les soirs, il y a quelque chose de... Venez tous les soirs à 18h.
Vous êtes occupés tous les soirs.
Vous aurez toujours quelque chose de très beau. Frontières, c'est le thème. Il y a chaque année, c'est
un thème,
très belle organisation.
C'est un thème national, la frontière.
Un thème national, Frontières.
Alors qu'est-ce que vous avez fait,
Nous avons invité deux poètes, Frédéric Germano, qui est une poète angevine, et Valentin Dedon. Tous les deux, d'ailleurs, sont angevins. Et Frédéric Germano, notamment, enfin, je vais juste dire un mot sur elle, parce que je la connais depuis pas très longtemps.
C'est Louis-Mars, allez-y.
Elle a publié un texte que je recommande absolument, qui s'appelle « Journal pauvre ». Et ce journal pauvre, c'est ce journal de transition entre quelqu'un... Bon, elle travaillait, je ne sais pas ce qu'elle faisait auparavant comme travail, mais la poésie était... quand elle avait le temps, puis cette année-là, elle choisit d'interrompre son travail et de vivre donc très modestement, très pauvrement, pour savoir si elle pourrait se lancer vraiment dans l'écriture et y consacrer ses journées. Donc c'est le journal, cette transition, ce passage où on essaye de mettre ce qu'il y a de plus important en priorité. Ça, c'est Frédéric Germano. Et Valentin Dedon, c'est autour des carnets de l'intendresse, un carnet de voyage. Je pense que ça va être une très belle soirée où on va entendre aussi leurs poèmes. Ça va être un temps assez fraternel.
Ils sont interrogés, ils lisent
Oui, absolument, par un bibliothécaire de la Cato, Martin.
À la bibliothèque, je crois.
Absolument, c'est à la BU.
Alors, Quel autre événement avez-vous envie de mettre plus
Annie
en valeur
Dupéret,
Roger
quand
Annie
même.
Dupéret,
Annie
d'accord.
Dupéret, alors voilà, si c'est le
alors, on a parlé avec d'écrivains là, du coup, parce qu'il y a de la musique aussi.
Ah oui, oui. Écoutez, je vais quand même terminer. Si
allez-y,
nous reste,
allez-y,
peut-être
allez-y,
terminer
allez-y.
Par
vous reste le temps. On a le temps.
D'accord. Alors Annie Dupéret devait venir au mois de le 19 janvier. Je ne sais pas si cette date vous rappelle quelque chose, mais c'était le jour des grèves. Donc on a tout annulé. Elle vient et elle revient à cette date-là.
Le 22 mars.
Le 22 mars, Annie Dupéret, sans doute. Enfin, je pense que vous
et
la
comédienne,
connaissez.
Comédienne, autrice aussi.
Voilà. Parce que c'est une femme qui a des talents multiples. Le grand public la connaît comme comédienne. À la fois, elle a joué dans de grands rôles, dans de grands films, mais aussi dans des séries à la télévision. C'est une femme qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Mais elle est également écrivain. C'est comme ça que je l'ai connue, notamment parce qu'elle a publié... Alors, elle a très, très vite écrit, Annie Dupéret, mais elle a eu un succès retentissant avec une œuvre qui s'appelle « Le voile noir ».
Oui,
elle a perdu ses deux parents à l'âge de 8 ans et elle a publié ce livre à l'appui des photos de son père, Lucien Legras, qui était un très grand photographe. Bon, c'est toute une histoire. Et elle essaye de recomposer ce qu'ont été ses 8 premières années de vie. Et « Le voile noir », ensuite « Je vous écris », ce sont toutes les lettres qu'elle a reçues suite à la publication du Voile Noir qui a beaucoup marqué. Et puis un troisième qui s'appelle Le rêve de ma mère, une forme de trilogie autobiographique. Donc c'est quelqu'un qui a une très belle plume et elle est également peintre. Voilà. Donc on va l'interroger, je vais l'interroger sur ce que c'est que d'être artiste. Ouais, hein,
voilà. Sa créativité.
Ouais, ouais.
Alors on le voit, c'est quand même très riche, très éclectique.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous visez comme public
en
tant qu'animatrice de l'animation.
Mais c'est le plus grand public.
Parce que donc tout
c'est
le monde.
Ouvert.
C'est
mais bien sûr, absolument. La vie culturelle à la Cato. Alors là, j'ai parlé de nos propositions du service culturel, mais il y a aussi tout ce que proposent les facs. Donc c'est pour ça qu'il faut, si vous avez envie de vous abonner, écrivez au service culturel, service.culturel@uco.fr. Vous recevrez notre Culture UCO, toutes nos propositions. Il y a tout ce que les facs proposent parallèlement. En fait, c'est pour les étudiants, au départ, que nous avons envie d'offrir un programme magnifique. Mais c'est vraiment ouvert, c'est vraiment l'université ouverte sur la cité,
on peut tous
ouvert sur la ville. C'est ouvert à tous. Et la plupart de nos événements sont gratuits. Parfois, on dit, si vous laissez une petite offrande dans la corbeille.
Parfois, sur inscription.
Mais c'est sur inscription, c'est vrai, en général, pour Cadra, Annie Dupéret. Vraiment, et ce que l'on aime, ce sont des publics intergénérationnels. Moi,
merci,
je suis heureuse
beaucoup.
Quand...
On en profite bien, France Culture. Merci beaucoup, Anne.
Merci.
C'est la fin de ce France Culture, 30 minutes de culture, tous azimuts en Anjou. Merci à Émilie pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h, ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.